Bonjour Hervé.
Bonjour.
Dans les journaux ce matin, des hommes et des femmes et même des éléments sous pression.
Sous pression, Carlos Tavares, en une des échos, le PDG de Stellantis, sauveur de PSA et de Opel, dont le salaire est très contesté, 36 millions d'euros par an, même le capitalisme est choqué, écrit Libération. Sous pression et sous tension, Bruno Le Maire et Bercy pour trouver des économies, 5 milliards d'ici la fin de l'année, 20 milliards pour 2025, le Figaro livre un récit détaillé de cette quête qu'il qualifie de désespérée, avec migraine et réunion marathon. Juste avant une de ces réunions, Bruno Le Maire dit à ses invités « Prenez un café, nous allons parler de finances publiques, vous risquez d'en avoir besoin ». Et sous pression aussi, Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain, qui joue gros ce soir en Ligue des Champions à Barcelone. Kylian Mbappé qui gagne deux fois ce que gagne Carlos Tavares, c'est le moment ou jamais de marquer, l'avertit le Parisien. Plus sévère encore, le Figaro, Mbappé, la revanche ou la porte.
C'est sévère. Autre personnage sur la sellette, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Il a promis une riposte à l'attaque iranienne de samedi.
Le Premier ministre israélien est l'objet, lui aussi, de toutes les attentions et de toutes les pressions de ses alliés occidentaux et arabes qui l'ont aidé à parer l'attaque iranienne et l'engage maintenant à la désescalade. On voit Benjamin Netanyahou se gratter la tête, pensif en une du Parisien. Sous ce titre, les scénarios de la riposte. Le Figaro souligne que le propre gouvernement de Netanyahou est divisé sur le sujet de la riposte. Les centristes veulent préserver l'alliance avec les États-Unis. Les durs réclament des représailles massives. Il faudra choisir. L'opinion ajoute, modérer Israël, c'est le défi des Occidentaux. Et le journal L'Opinion parle d'un branle-bas de combat pour éviter la guerre, mais est-ce encore possible ?
Une enquête du Wall Street Journal apporte ce matin des précisions sur cette fameuse alliance qui a permis à Israël de résister aux missiles iraniens.
Article très détaillé dont on trouve une version française dans l'Opinion ce matin et qui explique que samedi soir, ce qui s'est produit était la concrétisation d'un objectif américain vieux de plusieurs décennies consistant à resserrer les liens militaires entre Israël et ses adversaires arabes historiques. Objectif favorisé par les accords d'Abraham, négociés par l'administration Trump en 2020, il faut le rappeler, et renforcés par la décision de rattacher la défense d'Israël au commandement central américain, alors qu'il était rattaché auparavant à son commandement européen. Deux jours avant l'attaque, écrit le Wall Street Journal, des dirigeants iraniens ont informé leurs homologues saoudiens et d'autres pays du Golfe de leur projet de frappe sur Israël. Information transmise aux Américains, ce qui a donné à Washington et à Tel Aviv le temps de se préparer.
Et c'est ensuite sous la direction des Américains que s'est organisée dans la nuit de samedi à dimanche la défense aérienne d'Israël.
Et le Wall Street Journal cite des sources israéliennes et américaines haut placées pour assurer que c'est bien la Maison-Blanche et le Pentagone qui ont coordonné les opérations défensives qui ont rendu, si on peut dire, l'attaque iranienne inoffensive ou presque. Les missiles et les drones ont été repérés dès leur lancement par les radars d'alerte des pays du Golfe en liaison avec la base américaine du Qatar. De là, l'information a été transmise aux avions de combat de plusieurs pays présents dans l'espace aérien jordanien, écrit le Wall Street Journal. C'est ainsi que les drones iraniens ont été abattus, écrit-il, principalement par des chasseurs israéliens et américains et, en plus petit nombre, par des avions britanniques, français et jordaniens. Le Wall Street Journal parle donc bien d'avions français, ce que les autorités françaises n'ont pas voulu confirmer depuis samedi.
Le mot pression barre également la une de Libération ce matin.
Et l'on voit un bouchon sauter, mais ce n'est pas du champagne, c'est de l'eau. 30% de l'eau minérale vendue en France n'est pas traitée selon les normes sanitaires en vigueur. Libération raconte que le groupe Nestlé utilise des techniques de microfiltration pour purifier ces eaux minérales, souvent contaminées par des pesticides, des bactéries et ce qu'on appelle les polluants éternels. Le problème, c'est que ces techniques qui sont courantes pour décontaminer l'eau du robinet était interdite pour de l'eau vendue comme naturellement pure et vendue 100 fois plus cher que de l'eau du robinet. Selon Libération, le gouvernement aurait autorisé en catimini, début 2023, les techniques utilisées par Nestlé et d'autres industriels. Dans le journal, un expert réclame des tests sur toutes les eaux mises en bouteille, ce qui s'appellerait, selon Libération, traiter le problème à la source.
Encore de l'eau et encore de la pression, le Parisien a visité le centre de santé environnementale du Val-de-Marne où s'effectuent les mesures de propreté de la Seine avant les Jeux Olympiques et Paralympiques.
C'est à Bonneuil-sur-Marne où des experts effectuent chaque jour 71 000 prélèvements d'eau et d'air pour en évaluer la qualité. C'est de ces mesures que vont dépendre l'accès à la Seine pour les JO, puis l'ouverture de sites de baignade pérennes dans la Seine et dans la Marne à partir de 2025. Le rythme des tests s'accélère à l'approche des Jeux. À l'aide d'une pipette, la technicienne transfère un échantillon de 100 ml dans un petit récipient posé sur sa paillasse, décrit le Parisien. Elle verse ensuite un réactif en poudre, mélange et après incubation, si le mélange devient très jaune, c'est que la pollution est trop élevée. Faut-il s'inquiéter ? Demande le Parisien à une experte. La réponse est assez optimiste, mais, dit-elle, nous ne sommes pas à l'abri d'un été pluvieux ou d'un accident sur le réseau d'épuration. C'est ce qui s'appelle ne pas se mouiller.
Le président de la République a promis, lui, de se mouiller en se baignant dans la Seine. Pour finir, la presse internationale salue avec ferveur la réussite du chantier de Notre-Dame de Paris qui sera terminé dans les temps, 5 ans après l'incendie.
Oui, et un tel cœur d'hommage venu de l'étranger mérite d'être entendu et peut-être même partagé. On trouve ce florilège sur le site de Courrier International. C'est en quelque sorte le résultat d'une pression positive. La promesse de la résurrection de Notre-Dame sera tenue, salue le quotidien suisse 24 heures, qui admire un chantier titanesque mené au pas de charge et parle d'une cathédrale redevenue semblable à elle-même avec un nouvel éclat. Pour le Irish Times de Dublin, la restauration accélérée de la cathédrale est une réussite extraordinaire dont Emmanuel Macron pourra se prévaloir à juste titre. Le quotidien El Espagnol prédit que la réouverture de Notre-Dame sera l'occasion d'un grand élan patriotique et la Süddeutsche Zeitung allemande estime que finalement l'incendie de Notre-Dame aura renforcé la ténacité du pays et son sentiment d'efficacité comme l'avait prophétisé le président Macron.
C'est incroyable comment les étrangers parlent de la France.
Mais oui, avec ce passage très lyrique donc dans la Süddeutsche Zeitung, un nouveau coq d'or scintille au sommet de la flèche, il étend ses ailes comme deux flammes vacillantes, preuve que la cathédrale peut renaître de ses cendres tel le phénix. Il n'est pas fréquent que les Allemands saluent ainsi le coq gaulois. Profitons.
Ah oui, il faut en profiter. Si les éditorialistes français parlaient comme ça de la renaissance de la cathédrale,
et de la France en général,
on ne le croirait pas. Hervé Gattegnaud, on vous retrouve demain pour
la
revue de presse. Merci. Radio Classique 8h39, on retrouve dans un instant Christophe Barbier et Lucie Robcat.